Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Pablo.
Salut Manouloute.
Oui, petit ange trapu, tout ça. L'heure est grave, Pablo, s'il en va de la survie de l'émission.
Hein. Ah, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Charline? Dis-moi.
Alors, écoute, ça reste entre nous. Je profite qu'Alex soit pas là, mais j'ai besoin de toi pour pimper l'émission.
Ah, ouais. C'est-à-dire, j'imagine quoi? Vous avez besoin d'un peu plus de beauté physique dans le programme, c'est ça?
Non, pas tellement.
Du pragmatisme, peut-être?
Non, là, je crois qu'on est tout à fait conscient des réalités, tu vois.
Du recul, de l'analyse, c'est
non,
ça qui.
Non, ce que j'aime, tu vois, c'est approfondir, tu vois.
Voilà. Un peu d'islamophobie, alors, peut-être?
Non, mais non, surtout pas, non. On a juste besoin de renouveler un petit peu l'émission, alors si t'as des idées...
Ouais, je vois, ouais. Il vous faut une intelligence suprême, c'est ça qui vous manque techniquement.
Ouais. En tout cas, on est ouvert à toutes les propositions.
Ouais, alors attention, tu dis toutes, vraiment toutes?
Oui.
Bon, alors maintenant que tu le dis, Maloulou, excuse-moi, mais moi je trouve que dans l'équipe de Par Jupiter, on est quand même sur une sacrée bande de feignasses techniquement.
Ah bon?
Ah ouais, là on est sur du niveau quotidien. Moi je suis choqué.
Oui, donc j'ai eu peur, d'accord. Ouais.
Non mais réfléchis, ceci dit, réfléchis bien Maloulou, tu sais très bien au fond de toi où est le problème dans l'émission, tu le sais.
Non, je vois pas.
Bah il y a quelqu'un qui nous ralentit dans cette équipe, quelqu'un qui fait la même chose en boucle depuis 5 ans.
Non, Pablo, c'est pas sympa de parler d'Alex comme ça, là.
Ah non, oui, ça c'est vrai, mais je pensais plutôt à Guillaume. Guillaume Maurice, Ah, que je te virais. Tout ça, moi, Manouloute.
T'es sûr?
Si. Allez, salut.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans le deuxième épisode des Vacances de l'Humour. Cette fois, trois invités nous attendent sous les tonnelles. Deux linguistes belges d'abord, Arnaud Hout et Jérôme Piron, qui racontent sur scène le parcours sinueux de l'orthographe française. On leur a soumis ce constat, plus de la moitié des recruteurs écartent les candidatures qui contiennent des fautes d'orthographe, parce que c'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Et on s'est demandé à quoi sert l'Académie française. Ah rien, ça, on le sait déjà.
Ne mettez pas la réponse dans les lancements.
Ah pardon, mais c'est bon de le rappeler et de l'argumenter. Ensuite, nous passerons un moment précieux avec Anne Sylvestre. Elle nous parlera des mots qu'elle préfère, du besoin de s'exprimer des Français et de l'art d'écrire sur soi. Est-ce de l'ego trip ou une thérapie? Alex, on n'est pas bien sous les tonnelles là?
On est pas mal.
Et alors, qui viendra nous servir le petit vin blanc?
On peut inviter des amis. Pablo Mira a traité un constat fort. La France ne baise plus. Et je rappelle à nos auditrices que je suis belge. Guillaume Meurice, évidemment, viendra comme tous les jours ennuyer les Français qui baissent plus. Donc, ils vont se faire ennuyer par Guillaume. Et la chronique littéraire, c'est Juliette Arnaud. Juliette Arnaud qui nous parlera du livre d'Anne Sylvestre qui a choisi ses mots préférés. Vous l'aviez si bien dit, on terminera par un Frédéric Fromet dont le titre est déjà enchanteur. Si j'avais le portefeuille de Bérard. Si j'avais le portefeuille de Bernard Arnault. Rien que l'idée me fait buter.
Alors, il ne faut pas le dire aux Français, mais il paraît que les meilleurs grammairiens sont belges.
On les écoute.
On a deux linguistes. Arnaud Hout, Jérôme Piron, c'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Alors, on vous a découvert tous les deux en France suite à une tribune parue dans Libération qui proposait de simplifier l'accord du participe passé avec avoir. Arrêtons de l'accorder quand le COD est placé devant parce que finalement, cette règle vient d'une erreur des moines copistes qui pouvaient faire l'accord du participe passé parce que le COD était devant puis quand elle était derrière, ils copiaient, donc ils ne prenaient pas la peine de l'accorder et donc on se fait taper sur les doigts aussi aujourd'hui avec cette règle. Tout ça parce que les moines étaient des feignasses, évidemment. C'est comme ça, pas tous, mais c'est comme ça qu'on vous a découvert en jetant ce pavé dans la mare, parce qu'on a quand même parlé pendant toute une semaine en France de votre tribune dans Libération.
Tout le monde.
Et ouais, oui, parce que vous n'êtes pas des curés de la langue, comme vous dites. Et d'ailleurs, vous en faites un spectacle qui est extrêmement drôle et plein d'enseignements. Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, tous nos auditeurs se disent « Mais comment, avec l'orthographe, qui est quelque chose qui paraît tellement rébarbatif, normé, voire dogmatique, comment est-ce qu'on en fait un spectacle où on s'amuse et on rit ?»
Disons que le potentiel comique de l'Académie française, par exemple, est déjà assez gigantesque.
On va s'en rendre compte.
Costumé.
Et vous parlez du fond, pas de la forme.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on fait la distinction, ce qu'on fait en linguistique, entre la langue et l'orthographe, on se rend compte qu'on peut tout à fait défendre la langue sans nécessairement défendre le code graphique qui permet de la transmettre, donc le code, en fait. Et donc, nous, en se penchant sur le code de l'orthographe, on s'est rendu compte que, enfin, pas nous, les linguistes qui ont travaillé à ça, nous, on ne fait que relayer la parole de la recherche, en fait, dans ces questions-là, qu'il y a plein de formes qui sont absurdes et pour de mauvaises raisons, et que donc donc on a effectivement eu tendance à respecter sans vraiment réfléchir des règles qui parfois ont des fondements foireux.
Votre postulat, c'est l'orthographe, c'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Elle devrait être à son service. D'ailleurs, il y a vous publiez le texte du spectacle chez Textuel, et il y a un des sous-titres qui dit « On se demande souvent comment respecter l'orthographe, mais l'orthographe est-elle respectable ?» Et vous ouvrez le spectacle, Arnaud Houd et Jérôme Piron, sur toutes les manières d'écrire bêtement le son « S ». Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu?
Oui, bah, il y a le S, il y a les deux S, il y a le C, le C, c'est dit. Je crois que les gens font l'exercice dans leur tête.
Oui, dites un exemple.
Ça va devenir compliqué.
Fois,
il y a le T, ok, donc, là, tout le monde me suit.
Dans
il y a
tension,
le X, tension, oui, les filles tension. Il y a X, qui a l'air plus bizarre, mais c'est dans 10 ou 6.
Ou dans Bruxelles.
Ou dans Bruxelles, ouais. Effectivement.
Ouais. Important.
Après ça, il y a le Z, dans Quartz ou Aztec. il y a le TH dans Forsythia.
Il y a l'échec scolaire.
Ça commence à apprendre. Il y a le S. STH de isme ou de asthme.
Ouais.
Alors plus au grenouille, il y a les deux C de succion. Et on a même trouvé SCCD dans il acquiesça.
Voilà. Donc 12 manières d'écrire le son S. Et puis vous dites, par contre, si vous voyez la lettre S écrite, comment peut-elle se prononcer?
Soit z entre deux voyelles, soit pas. Voilà. Donc ça fait manières de l'écrire, une lettre, trois façons de la prononcer.
Et vous dites aussi que les grands auteurs, à une autre époque, étaient moins regardants sur l'orthographe.
Ah bah, beaucoup de très grands écrivains ne s'inquiétaient pas de l'orthographe, puisque avant le XVIe siècle, il n'y a pratiquement pas d'orthographe. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe, qui variait même d'un manuscrit ou d'un imprimeur à l'autre. Et jusqu'au XIXe siècle, l'orthographe... Bon, d'abord, tout le monde n'écrit pas, donc a priori, c'est pas une question qui concerne tous les Français. Et puis, à partir du XIXe siècle, une fois que la norme devient vraiment incontournable, là, on commence à avoir un débat plus politique et plus sociologique sur la question de l'orthographe. Mais les grands écrivains eux-mêmes s'en inquiètent pas énormément. Voltaire lui-même trouvait que l'orthographe était absurde, saugrenue, et qu'il fallait la changer.
Il l'a changé, d'ailleurs.
D'ailleurs, il l'a changé. Ouais.
Et on reviendra sur aussi l'Académie française et son apport là-dedans. Alors moi, j'ai une question. Oser remettre en question l'orthographe et parfois même la grammaire, est-ce que c'est pas un excellent apprentissage de l'esprit critique et je dirais même de la désobéissance?
La désobéissance, c'est bizarre parce que nous, on a appris tout ça à l'université, donc c'est le moment où on apprenait bien ce qu'on nous disait. Et ce sont nos profs d'UNIF qui nous ont expliqué que l'orthographe était absurde à cet endroit-là, que ça, c'était respectable, ça l'était moins et ça, pas du tout. Donc, en fait, pour moi, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il s'agit juste de transposer le regard critique qu'on apprend dans les études supérieures en général. Hein.
Oui.
Simplement de le poser sur cette chose-là plutôt qu'une autre.
Mais il y a un rapport plus détendu à l'orthographe et à la langue en Belgique par rapport à la France, où il y a... C'est presque religieux, l'orthographe.
Bah, disons que si l'orthographe a un rapport à l'identité notamment nationale, puisqu'elle a été construite au XIXe siècle, quand on cherchait à faire une langue à l'image d'une république un peu une et indivisible, nous, on n'a pas cette identité républicaine, donc on a peut-être un peu de recul par rapport à ces questions-là. Après, l'opinion publique est tout à fait similaire en Belgique qu'en France. Les gens sont arc-boutés sur...
Parce que vraiment, vous proposez des mots à écrire autrement, et le public peut lui décider s'il accepterait de vivre ça ou pas, et selon le mot, et selon les gens, et sans doute selon les lieux, peut-être.
Tout à fait. Et alors, les gens se filment eux-mêmes, donc on filme les gens, et alors les gens, on voit qu'ils changent d'avis parce qu'ils se voient voter pour.
Oui, il y a du débat, il y a de la dictée, c'est très rigolo, c'est illustré, alors on vous le recommande. C'est un spectacle-conférence qui s'appelle La Convivialité, et qui sont en tournée dans toute la France et en Belgique, vous comprendrez aisément. Celebration de Balthazar. Non, mais mon accent.
Non, j'ai, parce que j'aime bien comme vous le dites.
Vous êtes habitué à entendre les Français parler anglais, mais.
De toute façon, Balthazar, ils sont belges, donc c'est vous qui avez raison.
C'est vrai. Les discriminations à l'embauche, elles sont déjà très nombreuses, raciales, sexistes, liées à l'âge ou au lieu de résidence. Un sondage pratiqué auprès des recruteurs montre aussi une forte discrimination à l'orthographe. La majorité des DRH en font même un argument de mise à l'écart des candidats. Cela dit, être très mauvais en orthographe produit des conséquences aussi inattendues.
Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. C'est que pain de mie chimique... Attends, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Mm-hmm. C'est abusé, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter, j'aime ça.
Toi, t'as des Twitter.
Oui, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais...
Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie.
Problemos, le film d'Éric Judor. C'est un article trouvé dans Aujourd'hui en France. Il y a une double page aujourd'hui sur l'orthographe. Oui, exactement.
Le Parisien aujourd'hui.
L'orthographe est donc aussi un critère de discrimination.
Oui, ouais. Depuis très longtemps, les lettres de motivation sont, quand elles sont truffées de fautes, sont discriminantes pour la personne qui les écrit. Ceci dit, c'est pas vraiment surprenant. Encore une fois, on réinvente pas l'eau chaude, dans le sens où l'exercice de lettres de motivation est un exercice avant tout de forme. Mm-hmm. En général, les gens qui écrivent des lettres de motivation sont plutôt motivés. C'est rare d'avoir des gens qui disent « je suis pas trop motivé, je sais pas, j'ai pas trop la pêche », etc. Donc en gros, à motivation égale...
Des lettres de motivation honnêtes, ouais.
Ouais, c'est ça, des lettres de démotivation, c'est ça, intéressant. Mais donc, à motivation égale, le critère de l'orthographe est un critère qu'on utilise pour ou de la langue en général, hein, parce que effectivement, avoir un bon niveau d'expression est une manière de montrer qu'on soit qu'on a eu un parcours scolaire plus prolongé, mm-hmm. soit que on fait attention. En fait, c'est un exercice aussi de conformité à une norme, en fait. Et à partir du moment où on se conforme à cette norme, on a un rapport à la docilité, à l'obéissance, à une voilà.
Et, mais c'est de la discrimination alors, si on est écarté parce qu'on a une mauvaise orthographe.
Alors ça dépend du job, ouais. Ça dépend aussi de
la chose qu'on demande. De...
Voilà. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a attesté que plus l'emploi était à degré de compétences élevées, moins l'orthographe intervenait. C'est-à-dire que quand on a un job d'ingénieur très pointu ou de médecin, on s'embarrasse pas de ces questions-là. Par contre, pour trier à la base les gens qui doivent balayer les rues ou nettoyer les façades, on a plus souvent recours à ce critère parce que c'est pratique, en fait.
Bah, déjà, médecin, faut réussir à lire ce qu'ils écrivent. Hein. Bon.
Moi, quand je suis venu vous voir, parce que vous faites le spectacle, il dure 1h10, on va dire, et puis vous proposez de débattre parce que tout le monde a envie d'en parler, donc vous sacrifiez pour le faire vous-même pendant un petit quart d'heure. Il y avait une DRH et c'était une des premières à poser une question. Elle a dit, mais en fait, je m'en veux. Moi, j'ai jeté plein de CV à cause de ça. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez envie de prouver, que les gens reviennent sur leur certitude, quoi?
Ouais, c'est certainement.
Mais... Ça vous fait plaisir, ce genre de commentaire, c'est ça ma question.
Oui. Mais nous, de ce dont on rêve, c'est que l'orthographe soit suffisamment bien foutu pour qu'il y ait moins de fautes. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. On a envie qu'il y ait moins de fautes globalement. Et ce qui est assez intéressant, c'est dans l'article justement dont vous parliez, c'est qu'on ne remet jamais nulle part en cause l'orthographe elle-même. On dit voilà, les gens la maîtrisent pas, mais on a l'impression que en elle-même, elle est. Tout le monde devrait la maîtriser, alors que. Personne ne maîtrise parfaitement l'orthographe du français. Personne.
Et qu'elle-même ne se maîtrise pas, puisqu'il y a plein de règles qui viennent d'erreurs.
C'est ça, c'est ça. Et donc, on prône la rigueur. On prône constamment... il n'a pas fait preuve de rigueur. Mais alors qu'on ne fait jamais preuve de rigueur avec l'orthographe elle-même. C'est ça. Donc, c'est ça qui est assez fou, qui fait penser à la discrimination. C'est qu'on utilise un outil pour faire une chose et on n'applique pas cette chose à l'outil lui-même.
Oui, mais plutôt que d'être plus rigoureux avec l'orthographe en elle-même, est-ce qu'il ne faudrait pas juste lâcher la grappe vis-à-vis des erreurs, en fait?
Ça dépend lesquelles.
C'est un peu les deux. En fait,
ça dépend lesquels.
À partir du moment où on prend du recul par rapport à l'importance de cet orthographe, ben forcément, on va commencer à moins juger les gens sur ces questions-là. Donc, ça doit être un double mouvement, en fait. Mais c'est vrai que si on améliore l'orthographe, parce qu'on préfère parler d'amélioration que de simplification, ben, y aura moins de fautes.
Eh bien, je vous propose de passer la parole à Pablo Mira, éditorialiste et auteur du livre « La sexualité disruptive, quel coït pratiquer face à la montée du géant chinois ?» Et Pablo, vous vous inquiétez aujourd'hui de voir les Français et les Françaises faire moins l'amour que par le passé.
Ouais, ma louloute, l'heure est grave, elle est issime, elle est gravissime. Selon une étude parue dans la revue américaine The Atlantic, les trentenaires ont déserté les contrées de l'érotisme, la génération des millennials Girls préfère désormais vivre au pays de l'abstinence sexuelle parmi les geeks et les contrôleurs de gestion. Les raisons à cela sont multiples, à commencer par l'hyperconnexion, notre dépendance aux écrans. En quelques années, la phrase « Oh chérie, pas ce soir, j'ai la migraine » s'est condensée en un seul son. Celui-ci, oui, Netflix et d'autres plateformes de divertissement font mal à la libido. Alors on pensait pourtant que les applis de rencontre allaient faciliter les rapports sexuels. Mais non, c'est tout l'inverse. Elles ont sur nos entrejambes le même effet que le visage d'Alain Juppé. On peut également pointer du doigt, vous savez, l'usage des sextoys qui a fait exploser la masturbation chez les femmes. Mais aussi chaque intervention télé de Yann Moix qui a fait exploser la masturbation chez Yann Moix. Même si c'est vrai, la masturbation, il faut dire ce qui est excellente pour le cœur. Ça l'aide à le fortifier. Et puis ça réduit de moitié les risques d'attaques cardiovasculaires. Autant vous dire qu'Alex Vizorek, c'est Highlander, le type est immortel. Il est né dans les hautes plaines d'Écosse il y a 400 ans. En revanche, autre vrai tue-l'amour, beaucoup plus problématique pour le coup, on le connaît tous, c'est bien entendu l'industrie du porno qui bousille le cerveau de toute une génération. Moi je vous dis, mon fils a regardé un film X une fois, et bien il était, mais littéralement, traumatisé. À 9 ans, j'ai dû lui expliquer que non, quand on s'aime, on n'est pas obligé de parler en allemand. Conséquence directe de tout cela, l'âge du premier rapport sexuel ne cesse de reculer. Chez les filles, par exemple, c'est vers 20 ans que l'on connaît son premier rapport, et c'est vers 20 ans et 2 minutes que l'on connaît sa première déception. Et encore, vous savez, même si je fais partie de cette génération d'abstinents, moi j'ai perdu ma virginité beaucoup plus tôt. Pour le coup, j'avais 16 ans, la fille avait 2 grammes. Je me souviens de chaque seconde de cet instant magique. Et en même temps, c'est pas compliqué, des secondes, il n'y en a eu que 7. Donc moi, je vous le dis, je suis très inquiet de cette récession sexuelle. Il faut faire attention hein, quand dans la vie, le sexe, l'érotisme n'a plus sa place. Car on sait tous ce que ça donne quand l'érotisme disparaît totalement d'une vie. Ça donne François Langlais. Alors oui, l'économie, j'adore ça. Hein, plus 3 égale 4, c'est super. Mais je ne souhaite ça à personne pour le coup. Bien sûr, tout n'est pas perdu. Hein, on peut encore inverser la tendance. Vous savez, en amour, moi je suis un optimiste et je préfère toujours voir le vagin à moitié plein. <C'était... rire>
Ah, il n'a pas assumé celle-là.
Et je pense, c'est très sérieux comme sujet, et je pense qu'on peut facilement relancer ça.
Salut.
Votre mère écoute.
On peut la relancer avec des astuces très simples, comme tester des nouvelles pratiques. Des jeux de rôle, par exemple.
Allez-y, mon loulou, respirez.
Des jeux de rôle, ma louloute. Des jeux de rôle, bah ouais, ma louloute. Moi, par exemple, ce qui m'excite, vous voyez, c'est quand ma femme se déguise en infirmière et qu'elle néglige ma toilette parce qu'elle est en sous-effectif.
Non, mais laissez tomber, on pige.
Si, on voit que ça aurait été drôle, ouais, mais il l'a vendu.
Non, là, c'est foutu.
Mais ce n'est qu'un exemple. Bon, allez.
Bien sûr.
Parmi tant d'autres. Je sais pas, mesdames.
Le pire que Gad Elmaleh, vous faites rire, vous.
Et ce sont les vannes de Gad Elmaleh. Non, plus sérieusement, sur les jeux de rôle, par exemple, mesdames. Exemple, le costume de policière marche très bien. Quant à vous, messieurs, voilà, soyez originaux, testez le déguisement de l'homme qui ne pense pas qu'avec son sexe. Pareil que ça plaît à chaque fois. Peu importe, l'important, c'est d'oublier sa timidité et de foncer. Vous savez, aux plus jeunes qui pourraient nous écouter, qui n'auraient jamais fait l'amour par peur de ce que c'est, je leur dis, il faut se lancer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, trouvez un forgeron et faites-lui l'amour sur une enclume. Pour conclure, je le dis et je le répète, alerte. Alerte, les chiffres sont unanimes, de génération en génération, l'activité sexuelle ne cesse de faiblir. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, on est en train d'assister au plus impressionnant gangbang de l'univers, avec 7,6 milliards d'êtres humains en train de niquer une pauvre planète. Allez, salut.
Oh, ça c'est merci normal. Pablo Mira. Sur France Inter, nous sommes en compagnie, donc, comme vous dites, des quickie flups de l'orthographe, ou de Jérôme Piron, avec leur spectacle La Convivialité, la faute de l'orthographe. Le plus jeune académicien avait 17 ans lors de son élection en 1652, Armand de Cambou. Un génie ? Très certainement, puisque c'était le petit-neveu de Richelieu, fondateur de l'Académie, institution politique d'une monarchie absolue. L'Académie sert-elle encore à quelque chose aujourd'hui ? On ne remet pas en question l'apport folklorique, bien sûr. On se demande juste à quoi les académiciens passent leur temps.
Jean Manhattan, mon humour fascinant. Deuxième tome de vos rébus, édité, s'il vous plaît, dans l'édition de la Pléiade. D'autant que vous êtes arrivé avec votre tout nouveau costume de l'Académie française.
Oui, au hasard.
Mais je vous en prie, je vous en prie.
Alors, mon premier est une trompette de chasse. Mon deuxième est une partie de l'anatomie d'une femme. Et mon tout se trouve dans un bocal aigre doux. Un cornichon.
Alors,
le corps.
Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan, c'est un article que nous avons trouvé dans le nouveau magazine littéraire de ce mois qui est vraiment cinglant avec l'Académie, qui dit c'est à l'Académie qu'on doit des choix byzantins de notre orthographe la plus irrégulière et la plus élitiste parmi les orthographes de toutes les autres langues d'origine latine. Alors, il nous reste à peu près une minute pour développer cette question. Est-ce que c'est fait exprès pour distinguer le peuple et l'élite, cet outil de l'Académie française? Est-ce que les gilets jaunes ne devraient pas aller manifester devant l'Académie française?
Il y a une chose qui est très, très évidente. On a rajouté des lettres pour faire grec à une époque. Donc forcément, il n'y a que ceux qui parlaient grec qui voyaient d'où ça venait et à quoi ça servait. Donc effectivement, ça ne concerne pas la population dans
son
ensemble.
Sinon, c'était des I tout simplement, c'est ça ?
Oui, voilà, des F.
Enfin, des PH.
Il faut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas de PH en grec.
Oui, c'est ça. Les PH et les TH en français sont cosmétiques. Ils ont été rajoutés
pour joli.
Que la langue française ait l'air grec quand elle était en compétition avec l'italien. Pour faire style, en fait.
Donc il y a une volonté d'avoir la langue, le sanctuaire de l'élite et se distinguer du peuple.
Oui, et encore, si c'était réalisé par des gens dont c'est le métier, dont c'est la compétence principale, mais les académiciens ne sont pas linguistes, donc c'est pas leur
C'est d'ailleurs
leur
pour ça qu'ils n'ont
principale.
Jamais été foutus de faire une grammaire. Ils ont essayé en 1932, ils se sont couverts de ridicule, depuis c'est fini. Depuis, ils en sont à la lettre T et on leur souhaite bon courage, parce qu'avec tous les enterrements et puis les intronisations qu'il y a derrière, ça prend du temps. On a un sketch à vous proposer.
C'est voilà. Arnaud, Jérôme, on va continuer sur l'Académie. C'est ça qui est bien, vous n'êtes pas les premiers dans cette émission.
En plus, il le cache avant, il ne nous le file pas avant.
Bien sûr qu'on ne le donne pas, parce qu'on a parlé d'Académie. Mais savez-vous qu'il y a 10 jours, l'Académie a lancé son nouveau portail numérique du dictionnaire. Et voilà, vous êtes au courant. On va donc revivre ce moment où Hélène Carrère-Dancos, alias Charline Vanhoenacker, a expliqué au reste de l'équipe comment ça allait se passer. Jérôme, vous êtes Valérie Giscard d'Estaing. Arnaud, vous êtes André Mackin.
Magnifique.
Et Guillaume est Alain Finkielkraut.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au lancement de notre portail numérique.
Elle dit quoi ? On refait le portail électrique ?
Non, c'est le portail numérique, c'est un site internet qui permet aux gens d'accéder à notre dictionnaire en ligne.
Un site quoi ?
C'est bon !
Qu'est-ce qu'il a, lui ?
Faites pas attention, il est assez tendu depuis quelques jours. Alors revenons à cette plateforme en ligne révolutionnaire, nous sommes à la pointe de l'innovation.
Oui bon, c'est qu'un dictionnaire sur internet, hein. Il y en a déjà des dizaines.
Ah bon ?
En plus... Quand on n'a pas terminé la création de notre dictionnaire, il s'arrêtera à la lettre S. Notre dernier mot, c'est sabéisme.
Islamiste ?
Pardon ?
Mais vous croyez que je ne vous vois pas venir, Ahmed, là ?
Moi, c'est André.
André, Ahmed, c'est pareil. Vous voulez islamiser l'Académie française, c'est ça ?
Ah, vous êtes André Malraux.
Calmez-vous, revenons à nos moutons.
Et voilà, encore des moutons que vous allez égorger, bande d'islamo-gauchistes à la mode de Daesh.
Oui ?
Bonjour, Luc Ferry.
Oui, c'est pourquoi ?
Eh bien, je passais par là, je me disais, comme il reste les sièges libres, peut-être
non,
que...
Non, mais ça suffit, on vous a dit non, monsieur Ferry. Hein.
Ah, mais je vais tout de même vous laisser un CV.
J'espère qu'il ne contient pas de faute d'orthographe.
C'est amusant.
Pourquoi on a refusé Jules Ferry ?
Non, revenons à la présentation, s'il vous plaît, pour vous montrer comment fonctionne cette plateforme. Je vous ai préparé un petit PowerPoint.
Elle dit quoi, la dame ?
Elle nous présente le dictionnaire en ligne.
Ah ouais, avec un... PowerPoint.
Voilà, le fonctionnement du PowerPoint est simple. Vous tapez sur, comment ça s'appelle, la tablette avec tous les petits boutons sur lesquels il y a des lettres.
Oui, le clavier.
Ah, voilà. Vous tapez le mot que vous cherchez, puis hop, la définition apparaît en numérique, c'est fou.
Oui, mais ça existe depuis 20 ans.
Hein ?
Dans 20 ans, je ne sais pas encore, mais je pourrais me présenter à la présidentielle.
Vous êtes plein d'esprit, M. Giscard, on n'en aura plus des comme vous. Hein.
Il y a moi.
Non.
Ah, non.
Bon, je fatigue, ça fait quand même 10 minutes qu'on travaille, je vais dormir.
Non, mais André, restez, je voulais vous présenter notre nouvelle acquisition. C'est un téléphone sans fil, ça permet de passer des communications tout en se déplaçant dans la pièce sans parler plus fort.
Où ça, Edgar Faure ?
Mais taisez-vous !
Aujourd'hui, Alex, Guillaume est allé très 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 loin.
Il a fait son Marty McFly, il a voyagé dans le temps, direction l'an 2000. 2084.
Dans 65 ans, que va-t-il se passer au niveau de la technologie? Alors pour en savoir plus, je me suis rendu au 104 où avait lieu la Maily Keynote, organisée par Mailiness, le magazine des startups françaises. Donc si vous êtes allergique aux smoothies framboise brocoli et aux conf cola zap, vous pouvez éteindre la radio. Hein. Ça va pas vous plaire du tout ce qui va suivre. Mais si vous êtes curieux de ce que l'avenir nous réserve, restez branchés. La journée avait donc pour thème la vie en 2084, avec tout d'abord de l'innovation au niveau de la téléphonie en entreprise.
Nous sommes ici pour présenter la téléphonie dynamique pour les entreprises.
Alors expliquez-moi ça.
Donc Ubephone est une solution qui permet aux collaborateurs d'une société d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'une solution de téléphonie fixe, classique, être mobile constamment. Comme ça, on ne leur reprochera plus de ne pas être à leur bureau.
Mais alors, est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que ça ne s'appelle pas le téléphone portable?
Oui, le téléphone portable.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, ça existe déjà. Mais là, c'est en réseau direct avec l'entreprise hein, pour bien traquer les salariés. Donc, restons sur la téléphonie avec une belle invention. Une autre belle invention, un bras articulé qui permet de taper sur un téléphone portable qui nous servira donc bientôt à taper nos SMS.
Ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit.
Ouais.
Pourquoi pas, effectivement, avoir un robot à domicile. Par exemple, pour assister une personne âgée qui ne sait pas trop comment utiliser son téléphone.
Alors, il faudra déjà lui apprendre à se servir du bras articulé, alors.
Le robot peut lui montrer comment faire, ensuite elle écrit le SMS avec le texte qu'elle souhaite. Quoi.
Oui, alors il faudra peut-être un robot pour lui montrer comment fonctionne le robot. Ça, c'est pas simple. Remarque, faites gaffe parce qu'en 2084, les personnes âgées, ce sera nous. Hein. On sera tous Bouteflika, je vous rappelle, en 2084. Donc apprenez la notice dès maintenant. Voilà, c'est le petit conseil. D'ailleurs, on sera vieux, on prendra des médicaments. Eh bien, sachez que Sanofi a pensé à nous. Ils ont construit une imprimante 3D. Alors, quel est le but?
C'est de fournir des imprimantes 3D dans les pharmacies d'hôpitaux, puis dans les pharmacies de ville, pourquoi pas. Et d'avoir la possibilité pour le pharmacien d'imprimer le juste nombre, mais surtout la bonne dose pour chacun de ses patients.
Est-ce que ça va résoudre les scandales sanitaires qu'il y a chez Sanofi en ce moment?
Bah, c'est pas du tout le même sujet.
Est-ce qu'on peut fabriquer la dépakine avec ça?
C'est pas le sujet du... de la présentation.
Ah, c'est con, c'est con. Il va quand même falloir élaborer une imprimante.
Il a tout de suite repéré.
Il a douté, puis il a dit non. Il y a un piège. Il y a une petite alarme qui s'est allumée dans sa tête. Va falloir élaborer une imprimante 3D pour répondre aux questions. Hein, par contre, parce que si un jour Élise Lucet débarque, elle a le sens de la présentation. Alors, puisqu'on parle de scandale sanitaire, parlons nourriture et parlons compote. Il y aura des compotes 2.0 en 2084. On aura des pommes connectées. Faisons une hypothèse au niveau du transport par chemin de fer des pommes.
On aurait eu une secousse qui aurait endommagé quelques pommes à cause d'un objet qui était sur les rails, de pouvoir l'identifier en usine et pouvoir retirer ces éléments-là afin de toujours produire la meilleure compote possible.
On saura si le train qui transporte les pommes a eu des difficultés.
Exact.
C'est la révolution de la compote.
C'est ça.
C'est à se demander comment on faisait avant. Surtout, on saura comment ont été traitées les pommes dans le train, hein, dans les pommes qu'on mange dans la compote. C'est-à-dire qu'on va arriver quand même à un stade où les pommes des compotes de pommes seront mieux traitées qu'un voyageur du RERB. Elles vont avoir la clim, les pommes, hein, le pass Navigo à vie. C'est tout simplement prodigieux. Et c'est pas tout. On a mieux au niveau de la traçabilité d'une compote d'un individu lambda.
C'est que je peux modifier directement à travers ce portail qui peut être disponible sur le téléphone, sur l'ordinateur, mais aussi on peut le retrouver finalement dans sa voiture parce qu'on aura les voitures connectées dans l'avenir.
Je peux avoir une traçabilité de sa compote grâce à sa voiture?
Exact, c'est ça.
C'est pas magique, ça. C'est vrai que quand on est dans sa bagnole, on se demande toujours, mais où est-ce qu'elle est la compote que je vais manger demain? Alors ça marche pour le Chablis aussi, hein, Juliette, je vois que vous me regardez bizarrement. C'est Chardonnay, ça okay. Marche avec tout. Et ben là, vous aurez juste à interroger votre Laguna Diesel et puis elle vous répondra directement. En 2084, on n'aura peut-être toujours pas de vaccin contre le sida, mais on saura retrouver notre compote en temps réel grâce à des satellites géostationnaires. Et là, vous vous dites, c'est beau, hein, vous êtes ému, je suis fier d'appartenir à l'espèce humaine, vous vous dites, mais moi je vous dis attention, et si c'était pas fini, et si on pouvait encore rêver plus haut?
On peut complètement dire, la veille d'être livré sa compote, que notre enfant, il a changé complètement d'avis, il aime plus les bananes, ce qu'il veut c'est une compote aux pommes. Je peux, à travers ce portail, communiquer avec ces personnes-là et finalement être livré en temps réel, assez rapidement, par drone, chez soi, une compote au goût qu'on cherche.
Par drone.
Oui.
Eh ben, on a hâte. On a tellement hâte d'être en 2084.
De voir
des balais aériens de drones comme ça qui transportent des compotes du Côte-du-Rhône, de la purée, ce que vous voulez. On a hâte d'entendre des faits divers à base de collisions entre une brosse à dents et un chou-fleur. On a tellement hâte d'y être que j'ai qu'une chose à vous dire. Vivement le futur.
Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup, c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernaud, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant. J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon? Pour conjurer la parano, je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein. Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, c'est pousse-toi de là que je déboîte. Maniaque de l'appel de phare, abuseur d'antibrouillard, ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.
Oh, c'est bon, Anne Sylvestre.
Ce serait super, c'est de l'avoir comme invité, dites donc.
Vous voulez?
Oh, bah, vous avez ça en boutique?
Bah, je sais pas qu'est-ce que vous me donnez si je l'invite.
Un gros bisou.
Allez.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Bienvenue Anne Sylvestre.
Merci.
Nous vous accueillons aujourd'hui pour un livre. Eh oui, Anne Sylvestre, Coquelicot et autres mots que j'aime, paru chez Point. Ça vient d'une collection, Alex Vizorek?
Mais oui, collection initiée par Philippe Delerme, qui demande à des amoureux des mots, comme il dit, d'en choisir quelques-uns. Il y en a plus de 70, je dirais, à peu près.
Presque... Il y en a un peu plus, il y en a 80 et quelques.
Donc, plus de 70,
oui, je sais pas. Ouais. Non, mais il faut les voir. Hein.
Ah bah, évidemment, évidemment. Et vous avez évidemment toute liberté. C'est-à-dire que vous pouvez mettre deux mots en dessous de votre mot, ou quatre pages.
Oui.
Est-ce que c'est ça qui vous a plu, tant la chanson, elle est faite de contraintes. Il faut des pieds, il faut des rimes, il faut des couplets, des refrains. Mm-hmm. Ici, vous pouviez laisser aller votre créativité.
Oui, c'est vrai. C'était assez agréable de pas... Enfin, c'est pas une contrainte pour moi non plus, la métrique, la chanson, les couplets, tout ça. Je suis dedans, quoi. Mmh. Mais là, c'était agréable de laisser aller, de dire, ah, ce mot-là, tiens, pourquoi pas. Hop. Et puis, ça pouvait être capodastre ou labyrinthe ou débaroulé ou, enfin bon. Et à ce moment-là, j'avais cru que c'était quelque chose de facile et de drôle. Non, c'est du boulot quand même.
Bah oui, mais donc justement, vous dites capodastre. Alors sans doute, on voit très bien comment vous êtes tombé dessus.
Oui.
Peut-être en prenant la guitare. Mais est-ce que c'est en vous laissant flâner, en observant des choses, vous avez dit ça pourrait me faire un bon mot?
Oui, c'est ça. J'avais un petit carnet et de temps en temps, je notais un mot en me disant « Ah, celui-là, peut-être ». Il y en a qui m'ont donné un peu du fil à retordre, comment j'expliquerais ça. Enfin bon, voilà, une autre fois. mais quelquefois, on m'en suggérait, mais enfin, moi, j'aime bien les trouver toutes seules.
Et comme le dernier que vous avez mis dans le livre, je laisserai la surprise aux gens, mais c'est...
Amour.
C'est amour.
J'ai rien à dire.
Voilà.
Oh, vous avez spoilé le livre quand vous avez...
Non, il y a écrit « J'ai rien à dire » ou alors « Trop ».
Ou alors « Trop », oui.
Et ça s'arrête là sur cette page. Mais évidemment, il y a des pages plus longues. Notamment, la page Larousse, on en parlait dans le petit sketch de début. C'est un dictionnaire qui vous a suivi. C'est le dictionnaire de votre grand-père.
Oui, mais pour moi, c'est Larousse... C'est mon grand-père, c'est un souvenir de mon grand-père qui avait dans son bureau tous les énormes dictionnaires, il y en avait 12 ou 15, je sais pas, Larousse, qui s'en servait absolument pas. Lui, il préférait être sous sa voiture, les mains dans le cambouis, mais à part ça, il connaissait l'histoire de France par cœur, etc. Donc, pour moi, c'était... Larousse, c'était mon grand-père, le bureau. Et je, en effet, je rêvais aussi, puisque à un moment, on m'a mise, sans me le dire, dans le petit Larousse.
C'était
je contente. Rêvais d'avoir pu encore dire à mon grand-père, tu sais, grand-papa, je suis dans le grand Larousse, dans le petit Larousse. Et il m'aurait dit, le petit, donc, parce que ça l'aurait vexé, quoi, que je sois dans le petit.
Mais donc, ces mots, on peut dire que c'est une attirance. On vous a pas poussé dedans, c'est vous qui alliez chercher ce dictionnaire-là.
Tout à fait, mais de toute manière, moi j'ai toujours aimé les mots, et si j'ai fait ce que je fais depuis un petit moment, c'est parce que j'aime les mots, et que parfois ils me le rendent aussi.
Il y a eu quelques mots comme ça que vous avez toujours rêvé de placer dans une chanson, parce qu'ils sonnent bien.
Ah oui, c'est ça. C'est pour sauver les mots.
Oui.
Parce qu'on les donne, on s'en sert pas dans la vie courante. On n'a pas le temps ou on sera pas compris. Donc, je sais pas, qu'est-ce que j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis améthyste, par exemple. C'est...
Ou pavane.
Oui, pavane. Mmh. Voilà. Mais avec tout ce que ça dégage d'images et de souvenirs et de.
Il y a aussi tomate parce que vous n'aimez pas.
Ah, j'aime pas. Mais oui, c'est ça, j'aime pas. J'aime pas. J'ai fait une chanson aussi là-dessus. Mais je ne sais pas, il y a quelques mots. J'ai mis aussi quelques mots de patois, Bressan ou Bourguignon parce que.
Ouais. Juliette, qui est stéphanoise, en a repéré
quelques-uns. Bah oui. Ah, bah oui, le sublime débaroulé.
Débaroulé, bien sûr.
Ouais. Et que les Parisiens ne pichent pas.
Mais non, c'est quoi,
mais nous autres, du centre de la France. allez-y alors. C'est arrivé vivement. Et un peu en se prenant les pieds. Enfin, c'est un peu une arrivée intempestive, un peu bruyante, un peu les gamins ils débaroulent. Voilà, ils arrivent jamais proprement. À part si c'est évidemment les petites filles modèles.
Mais dans une petite chanson qui parlait de gâteau, j'avais utilisé en disant le sucre débaroule. Le long de quand on fait la montagne en farine et on met des œufs et le sucre il descend quoi.
Ça ruisselle hein, aujourd'hui.
Oui, c'est ça, il débaroule quoi.
Il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est dinosaure, parce que il explique ce pourquoi il y a pas de nouveaux mots vraiment dans votre liste. Vous n'êtes pas tombé dans la macronisation, il y a pas de open space, il y a pas de
Anne Sylvestre. Pas très PowerPoint en
lève les yeux.
Oui, et vous montre ma tête à ce moment-là parce que sinon ailleurs non, mais
et vous dites parfois les mots disparaissent, on en met d'autres à la place que les dinosaures n'aiment pas beaucoup.
Non, c'est vous, mais je ne comprends pas. Ça entre pas. Ouais. Ça entre pas. Alors, ça m'ennuie. C'est surtout ça. Et moi, quand même, j'ai appris. J'ai eu le temps à dire que si quelque chose, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà.
Ça, on l'a senti ça.
Alors, on va aborder ce premier sujet avec vous pour le grand débat. C'est pas tout ça, mais il va falloir collecter les données, les avis de tout le monde et les traiter. Hein, on sent bien que les Français ont un besoin de s'exprimer, mais comment seront-ils entendus? Se faire entendre du pouvoir ou d'un système, c'est pas facile. Ou même de la cellule familiale, c'est pas facile non plus.
Bon, qu'est-ce qu'ils veulent?
Vous voir!
Me voir pour quoi faire?
Ils sont pas assez considérés, je sais pas, moi.
Pas assez considérés? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais rien, c'est des machins de gonzesses. Ma femme arrête pas de me le dire, tiens, que je pourrais plus la considérer. Seulement moi, comme je sais toujours pas ce que ça veut dire, hein, ça risque pas d'avancer, cette histoire.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, alors?
Comme avec ma femme, on y va, on écoute, on attend que ça passe. Qu'est-ce que ça, demain, ça recommence.
L'extrait de Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. Bon, on va essayer de voir un peu ensemble ce sujet d'abord. Les Français ont besoin de s'exprimer. On le sent très très fort en ce moment. Bon, c'est pas nouveau, parce que nous, en tant que Belges, on trouve que vous vous exprimez déjà beaucoup tout le temps, hein, depuis toujours.
Vous aimez bien parler.
C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est si fort? Est-ce qu'il y a eu des
on parle pas. Est-ce on leur répond pas.
On les laisse entre belges.
Ils sont dans la merde. Allez, et bonne émission, bien sûr. Non, parce que c'est fort.
Ils
sont gonflés, ceux-là.
J'ai rien à dire.
Non, de toute façon, on s'en fout. Allez-y, parlez.
Est-ce qu'il y a eu des périodes où les Français pouvaient moins s'exprimer, on sentait moins ce désir d'expression? Aujourd'hui, vous, et vous qui aimez les mots, est-ce que vous sentez que la cocotte boue avec l'expression?
Je pense que oui, bien sûr, mais est-ce qu'on emploie les mêmes mots aussi?
Oui.
Ça qu'on a, est-ce qu'on comprend les mêmes mots toujours parce qu'on n'a pas pu connaître la signification? Moi, quelquefois, j'ai l'impression qu'il faudrait faire un petit lexique à la fin des chansons pour expliquer certaines choses. Mais
je veux dire qu'on n'a pas tous les mêmes clés, le même langage pour pouvoir s'exprimer de manière uniforme et se comprendre tous.
On n'a peut-être pas eu l'occasion de les assimiler, puis de les aimer aussi, parce qu'il faut aimer les mots pour les dire. Je crois que c'est bien de pouvoir justement que la marmite explose un petit peu, mais sans faire
pour les faire sortir,
mais sans démolir la cuisine, quoi.
Oui. C'est... Oui.
Et ça, le langage, ce serait le compromis entre démolir la cuisine et
justement,
ne rien dire.
Justement, oui, à condition qu'on se fasse comprendre quand même. Il me semble que parfois, on adapte Sylvestre, un langage, une phrase à un certain public, à un certain auditoire.
Et donc, c'est dû autant à l'émetteur qu'au récepteur. C'est-à-dire que peut-être les dirigeants français ne font pas non plus l'effort de comprendre.
Oui, je pense que on a sûrement souvent l'occasion, enfin, de croire qu'on nous prend pour des cons, quoi. C'est ça. Oh, ils comprennent pas. Ben si, on comprend. Mais quelquefois, oui, et quelquefois, il faut aussi expliquer. Parce que ben, j'ai dit ça, ce mot-là, il veut dire ça pour moi, mais pour vous, il veut peut-être dire autre chose.
On parle ici de cette expression dont le gouvernement doit récupérer les données, les traiter, etc. C'est toute la différence entre s'exprimer et être entendu. Est-ce que vous êtes arrivé, vous dites on n'a pas toujours les mêmes mots, est-ce que vous êtes arrivé de vous exprimer et que vous n'ayez pas eu la bonne réception, que vous n'ayez pas été entendu?
Oui, bien sûr.
Dans des chansons, vous voulez dire? Que vous aviez l'impression que c'était très clair?
Oui. Quelquefois, je m'aperçois que la chanson n'a pas été perçue et qu'on n'a pas compris. Parce qu'il y a quand même toujours... c'est pas anodin, quoi. C'est pas juste... voilà, je suis entré, j'ai mis mon chapeau et...
Donc, y a tout votre répertoire, c'est une sorte de grand débat aussi, hein, quand même.
Oui, mais...
Par exemple, vous détestez les gens qui doutent, on peut le rappeler. Vous trouvez que c'est des cons, vous nous l'avez dit à l'antenne.
Non, mais je pense qu'il faut... Il y a des mots qui sont très beaux et que j'aime voir sauver, mais si ils doivent passer à côté, c'est pas la peine. Je suis pas frontale, c'est-à-dire je suis pas une théoricienne, je fais pas des discours, je raconte des histoires.
Il faut être compris.
Et dans les histoires, il y a quelque chose. Et alors, il y a une difficulté actuellement, c'est que dans les chansons, quand je les fais et quand pas mal d'autres les font, il y a une histoire, il y a quelque chose, un déroulement et il y a une chute. Or, la chute, on ne l'entend plus jamais. Parce que, enfin, sauf chez vous, puisqu'on a passé ma chanson en entier, merci. En général, on passe des chansons par entière. Et donc, j'avais le projet d'écrire une chanson qui commencerait par la chute.
Pour être sûr d'être entendu.
Bah voilà, au moins, vous savez de quoi il s'agit après.
C'est une très bonne idée.
Chanson Columbo.
C'est vrai. Anne Sylvestre, c'est dans Coquelicot et autres mots que j'aime, édition Point. Que Juliette a lu également.
Oui, alors comme souvent les lecteurs et les lectrices, j'ai mes petites habitudes, pas forcément propres, pas forcément orthodoxes. Quand ils sont neufs, les livres, je les ouvre pour les renifler. Et c'est presque aussi bien que la première gorgée de bière. Je corne les pages et j'écris dessus. Quand les livres m'inspirent, même terminés, je les laisse dormir dans mon lit. Et quand ils me font peur, je les fais dormir hors de ma chambre. Ainsi, American Psycho de Bret Easton Ellis ou Sequoia Island de David Vann. Enfin, Pinacle blasphématoire pour les puristes. Pour choisir un livre parmi tant d'autres, j'ai une méthode. Je regarde les premiers mots et les derniers mots du livre. Et si ça me chante à l'oreille, je prends. Votre livre, Anne Sylvestre. Premier mot, Coquelicot. Et les premiers mots dans Coquelicot, c'est un cri. Moi, je me dis, ça me chauffe. Dernière entrée, amour. L'amour, c'est mon poney de bataille. Enfin, ça et l'introduction du Chardonnay au patrimoine de l'humanité. Et à amour, vous écrivez seulement, j'ai rien à dire, ou alors trop. J'ai pensé en moi-même, soit, j'en accepte l'augure. Si l'amour n'est pas amour, c'est qu'il est partout ailleurs dans le livre. Et comme Anne Sylvestre est pudique, ça relève de l'enquête. J'ai investigué à la recherche des petits cailloux semés. J'ai trouvé une petite fille qui eut son premier chagrin d'amour à 4 ans et qui à 8 ans était sentimentale. Une femme qui lit la couleur des mots et sait que si l'espoir est vert, l'espérance est bleue. Et je vous cite comme la dentelle des veines au poignet d'un amour impossible. Une femme qui a mesuré ses capacités de croyance en l'amour et peut donc écrire à l'entrée de crédule « Vous qui n'avez jamais dit « Je t'aime pour la vie », je me change en libellule, plus besoin d'être crédule et je n'ai plus rien à donner, alors vous pouvez m'aimer. » Une femme de chair qui renifle, hume, elle aussi, à l'entrée parfum cette formule « Il continue d'embaumer même quand on ne vous aime plus », qui sait manger et... parfois plus que manger. Ainsi, le mot soupe a deux entrées. Soupe au singulier, soupe au pluriel. Et la nomade empêchée, que vous dites être, mais qui, comme toute chanteuse musicienne, revient souvent de tournée, alors elle évoque ses retours vers une maison où quelqu'un t'aurait préparé une soupe de légumes égayée d'un nuage de lait. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser? On pourrait penser, et je vous cite, « Je ne serai plus jamais seule ». Si l'amoureuse est partout, la musicienne aussi. Parolière est donc attachée aux mots pour leur sens, mais en même temps, musicienne est donc qui attrape les mots pour leur musique intrinsèque, acacia et ses 3 A, libellule et ses 4 L. Musicienne est donc sensible aux respirations, comme le petit silence du H aspiré. Par loyauté maternelle, Anne Sylvestre est intransigeante sur le H aspiré. Elle a raison. Ainsi, le mot héros, Achille, est le héros grec par excellence. Mais s'il est avec ses petits potes de l'Odyssée, ils deviennent les héros grecs. Et si l'H n'était pas aspiré, ils seraient les héros grecs. C'est emmerdant, non? Bon, elle a bien raison, cette maman. Résumons-nous. On mettra de l'amour de partout, sauf à amour. On ne sera pas indulgent avec les gens qui bousillent les silences. Mais que fera-t-on aux gens trop bruyants? Oui, c'est un poil intéressé. Mais voyez-vous, lire l'âme des autres, c'est aussi chercher la sienne propre. Et là, dans ma promenade de vos mots, j'arrive dans une charmante clairière et je lis. S'esclaffer, c'est se mettre dans tous ses états. Se mettre minable, se faire du bien, exploser et en redemander. S'esclaffer, c'est mal élevé, mais Dieu que c'est bon. Voilà, voilà. J'ai ma bénédiction pour continuer de rire. Comme ça me vient, précision, le Dieu invoqué d'Anne Sylvestre est au pluriel. Un bon gros X en queue. Pour ça et pour la balade, merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Coquelicot et autres mots que j'aime, par Anne Sylvestre, paru chez Point. Abordons ce dernier thème, écrire sur soi. Il paraît que c'est une excellente thérapie, ça se pratique seul ou en groupe, ça se publie ou pas, ça se partage ou ça se cache.
Cher journal, depuis que j'ai repris l'alcool dans les céréales le matin, je me sens isolée et incapable d'en faire part aux autres. C'est à cause de mon dernier avortement. Le père, c'est le prof de bio. D'ailleurs, il m'a déçu en tant que spécialiste des sciences de la vie de la Terre de ne pas m'avoir mieux expliqué. Mais bon, c'était un bon coup. Et si je n'avais pas braqué la supérette pour payer l'intervention, pas savoir où j'en serais aujourd'hui. Si ma mère lit ça normalement, elle aura succombé à une crise cardiaque dès la première ligne. Ça serait dommage qu'elle ne sache pas que tu n'es pas un vrai journal. Tu es un journal exprès pour les curieux lecteurs qui ne savent pas ce que le mot secret veut dire. Ah lol, MDR, smiley.
Un extrait de Parents mode d'emploi, c'est un programme court de France 2. Nous avons trouvé cet article dans le Figaro, paru hier, à propos des ateliers, des blogs, du besoin de s'exprimer par écrit pour se faire du bien, réécrire parfois le fil de sa vie. Alors c'est vrai que vous êtes très pudique, c'est un livre où on peut, par vos mots, retrouver voilà la maman alsacienne, enfin tout ce qu'a dit Juliette aussi, on peut lire un peu de vous. Vous n'aimez pas les tomates, je l'ai dit. Est-ce que ça vous a fait aller chercher des choses comme un peu aussi une thérapie, différemment de quand vous écrivez des chansons, ou pas?
Oh, pas une thérapie. Moi, j'ai jamais éprouvé le besoin de... Mais j'écris des chansons, donc déjà, écrire, je trouve que c'est indispensable. Parce que ça fait du... pas forcément pour le publier, pas forcément pour les faire lire, mais ça fait du bien de mettre sur un papier les choses, parce qu'en les formulant, on découvre un sens, on découvre des mots qu'on n'aurait pas pensé.
Et il y a aussi beaucoup d'auteurs ou de personnalités qui écrivent carrément leur vie et qui la font partager. Et parfois, dans les interviews, ils disent « j'avais besoin de me faire du bien, je l'ai fait pour moi ». Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui écrit pour soi, ça peut faire un bon livre pour les autres?
Je suis pas sûre.
Nous sommes mardi et pourtant il est entré dans ce studio.
C'est fantastique, c'est le bonheur des florilèges Frédéric Fromet tous les jours. Oui. Avec « Si j'avais le portefeuille » de Bernard Arnault.
Tu parles que c'est fortiche de dauber sur les riches. C'est typique du clochard de jalouser leurs milliards. Le problème du mendiant, c'est qu'il est bien feignant. Pour aller au boulot, alors il chante dans le métro. Si j'avais le portefeuille de Bernard Arnault, je partirais en vacances dans des paradis fiscaux. Si j'avais compte en banque de Bettencourt, je partirais en vacances au moins au Luxembourg. Le pauvre est si petit qu'on le voit naître à Bobigny. S'il était un peu moins chèvre, il verrait elle jouera Genève. S'il avait moins la flemme, il quitterait son HLM. Mais il profite du chaume du pour gueuler comme un glandu. Si j'avais le portefeuille de Jeff Bezos, je partirais en vacances, loin de tous les cassos. Si j'avais le portefeuille de Mark Zuckerberg, je partirais en vacances avec Michael Bloomberg. Le fauché a tous les torts, il ne fait aucun effort. Plutôt que d'aller à l'école, il préfère boire de l'alcool. Plutôt que des diplômes, il préfère avoir des mômes et brailler sans scrupules en se grattant les testicules. Si j'avais le portefeuille de Bill Gates, je partirais en vacances, au moins jusqu'aux States. Si j'avais le portefeuille de Warren Buffett, je partirais en vacances et pas au Kremlin Bicêtre. Faut pas être une fine gueule pour faire ses courses au Lidl. Faut avoir des goûts pourris pour s'habiller chez Tati. Faut pas être un champion pour dormir sous des cartons et faire chier les gens qui passent en parendiant les vents passent. Si j'avais le portefeuille de Carlos Slim, je partirais en vacances en yacht pour la frime. Si j'avais le portefeuille d'Amancio Ortega, je partirais en vacances loin de tous les cracras. Le pouilleux pas très malin qui glandouille sur les ronds-points en gilet jaune fluo prouve bien qu'il est pas beau. L'est pas plus mélomane soutenu par Francis Lalanne, mais il a trouvé une famille avec qui il s'est gosi. Si j'avais le portefeuille de mon banquier, je partirais en vacances en parachute doré. Si j'avais le portefeuille de mon patron, je partirais en vacances avec mes stock options. Mais j'ai pas une retraite chapeau comme François Pinault, et j'irai en vacances seulement au bistrot. Et comme je verrai jamais la vie en rose, je resterai tout seul avec ma cirrhose.
On ferme.
Oh,
ben oui, il y a un moment, faut baisser le rideau, quoi. Sinon, nous, quand est-ce qu'on va prendre l'apéro, nous deux, finalement?
Maintenant.
Alors, pour relever ce rideau demain, oui, ce sera sur Vladimir Kosma et Lionel Abelansky.
Chic.
À demain.
Je serai là.